25 ans après avoir quitté la Terre en quête d'une nouvelle planète pour des milliards de tata, l'équipage du Romano Fafard se retrouve autour de Mathieu Pepper.
Merci beaucoup tout le monde d'être là.
Pour raconter l'aventure qui est devenue une série culte.
La première fois que j'ai su que j'allais jouer le Capitaine Patnaud, je capotais.
Dans une galaxie près de chez vous, 25 ans de mission. Une série documentaire originale à regarder dès le 1er mai sur Crave.
Salut tout le monde, bienvenue à notre balado-diffusion sur la glace édition du mardi. Ben oui, on fait ça mardi cette semaine, mardi le 26 mars 2019. On est en pleine série éliminatoire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y a des surprises en cours présentement. Chaque série a deux matchs découlés. Les matchs numéro 3 sont présentés ce soir dans 8 amphithéâtres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il en sera évidemment beaucoup question. On a réalisé des entrevues avec le directeur général Jocelyn Thibault du Phoenix de Sherbrooke. On a également été ce matin même à Québec rencontrer l'entraîneur-chef Éric Veilleux des Moussettes d'Halifax. On sait que les Moussettes ont perdu les deux premiers matchs à la maison contre les Remparts. Donc, ils sont dans le trou, il faut être honnête. On va parler de la demi-finale de la Ligue Midget 3A, notamment entre les Chevaliers de Lévis et les Lions du Lac-Saint-Louis. On va faire un petit tour également du côté de la NCAA. On connaît maintenant les 16 équipes là, qui vont participer aux finales régionales en vue de se qualifier pour le Frozen Four, si on veut. Ça, c'est le championnat national américain universitaire qui aura lieu au début du mois d'avril à Buffalo. Mais comme on le fait à chaque semaine, évidemment, on va parler aussi du Rocket de Laval. Le Rocket qui rentre presque, j'allais dire, dans son dernier stretch, là, dans la phase finale de son calendrier. Le Rocket qui se bat pour demeurer en vie, se bat, je dirais, avec l'énergie du désespoir. Reste encore 9 matchs à jouer. Alors, comme on le fait régulièrement à la balado-diffusion, on va s'entretenir avec notre collègue Raphaël Doucette, analyste des matchs au 91.9 et collaborateur au RDS.ca qu'on retrouve au téléphone. Salut Raphaël!
Salut Stéphane.
Écoute Raphaël, je disais dans mon préambule que Laval se bat avec l'énergie du désespoir. On est allé chercher encore des points de classement là, sur la route en fin de semaine. La situation n'est pas désespérée. Là, ça va être difficile. Il y a 6 points de retard sur Cleveland et Belleville pour le Rocket. Et il reste encore 9 matchs à jouer.
Ouais, c'est pas fait. Écoute, ils sont encore dans le coup, là, le Rocket est un petit peu sur le respirateur artificiel. Le problème, c'est quand on est allé à Belleville il y a quelques jours, ben, on est allé chercher 3 points sur 4, mais Belleville a fait la même chose. Ouais. Et pendant ce temps-là, ben, Cleveland connaît vraiment une très bonne séquence avec 3 victoires consécutives. Donc là, tu te retrouves avec 6 points de retard. T'as le même nombre de matchs de jouer que Cleveland. T'as un match en main sur Belleville. Donc là, on en parle un petit peu à chaque semaine, là, mais tu peux pas te permettre de perdre beaucoup de matchs d'ici la fin de l'année si tu veux te donner la moindre petite chance de te classer en série. Et quand tu regardes un petit peu le calendrier cette semaine, ça sera pas facile parce que, bon, demain, mercredi soir, tu as la visite de Binghamton qui a perdu ses 10 derniers matchs. Ça, oui, ça rentre dans la catégorie facile, mais ensuite, tu t'en vas sur la route contre Rochester, qui est deuxième dans la division Nord, et les Marlies de Toronto ensuite à Toronto samedi. Et les Marlies sont troisième dans la division Nord et connaissent vraiment de très bons moments depuis un mois et demi. Donc, ça va être une semaine, un week-end plutôt très difficile pour le Rocket.
Qu'est-ce que tu as aimé du Rocket en fin de semaine à l'étranger, particulièrement si je parle des deux matchs là, qui ont eu lieu? Parce qu'on sait, la semaine avait commencé mercredi dernier à domicile. Encore une fois, moi, je pense qu'il faut parler de Connor Lacouvé, là.
Ouais, exactement. Connor Lacouvé, écoute, vendredi, là, si c'est pas de Connor Lacouvé, il n'y a pas de points à Utica. Il a été excellent, 35 arrêts sur 36 tirs. Résultat, depuis qu'il s'est joint avec le Rocket de Laval, là, il est rendu avec une efficacité de 933. Et ce que j'aime de Connor Lacouvé, c'est qu'il donne vraiment une chance de victoire à son équipe chaque fois qu'il se présente devant son filet. C'est un gardien de but qui est athlétique, qui est combatif, puis il a vraiment un petit peu une confiance. Il est vraiment dans une bulle présentement. Chaque fois qu'il est devant son filet, on dirait qu'il va être capable d'aller chercher les 2 points. Puis là, résultat, il a transformé son contrat d'essai professionnel en contrat en bonne et due forme pour la Ligue américaine. Mais là, je pense vraiment que s'il continue ainsi, si Charlie Lindgren reste avec le Canadien d'ici la fin de l'année, comme ça semble être le cas, le plan, Ben, je pense que la Couvée va peut-être mériter un contrat en vue de l'an prochain, puis qu'on va peut-être avoir un duo McNevin et la Couvée l'an prochain devant le filet du Rocket de Laval, parce que je pense vraiment pas, là, de la manière que les choses se placent, de la manière qu'il agit devant son filet, que Connor Lacouvé, à 24 ans, est un feu de paille. Il, vrai, il montre vraiment de très belles choses devant son filet. Et la bonne nouvelle pour Joël Bouchard et pour le Rocket, c'est que là, le samedi, finalement, Michael McNevin a offert une bonne performance, 27 arrêts sur 29 tirs dans une victoire à Springfield en prolongation. Et là, ça fait en sorte que McNevin a mis fin à une séquence personnelle de 4 défaites. Il avait là, une efficacité de 860 lors de ces 4 défaites-là.
Charlie Lindgren aussi, évidemment, il va falloir qu'il reste à Montréal l'an prochain pour que ton scénario se place. Mais j'aurais tendance à penser qu'effectivement, c'est quelque chose qui peut arriver si Lindgren devient officiellement l'adjoint de Carey Price l'an prochain. Si on regarde ce qui nous attend, demain soir à la Place Belle, écoute, c'est la visite d'une des pires équipes de la Ligue. En fait, la pire équipe de la Ligue là, depuis un bon moment, les Devils de Binghamton qui se présentent avec 10 défaites de suite. Ça, c'est un cliché, là, mais c'est deux points qu'il faut absolument, absolument ramasser pour le Rocket. Et là, on s'approcherait à 4 points de Cleveland et de Belleville. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'il reste 2 matchs contre Cleveland. Alors, c'est pour ça que c'est pas complètement fini. C'est sûr qu'il va falloir la collaboration des sénateurs de Belleville, là, mais demain, si on commence par demain, là, ça prend ces 2 points-là absolument. Là.
Ben ouais, Binghamton est vraiment en chute libre, là, comme tu l'as dit, 10 défaites consécutives. Et pourquoi ils sont en chute libre? Parce que les Devils du New Jersey ont eu tellement d'absences, tellement de blessures qu'on a rappelé à peu près tout le monde à Binghamton. Écoute, quand t'es rendu à rappeler Eric Tangrady, qui est rendu à 30 ans, puis que je suis sûr que si tu avais demandé au début de l'année à Tangrady, est-ce que tu penses en tes chances, est-ce que tu crois en tes chances de remonter dans la Ligue nationale, il aurait dit non. Même Brandon Gignac, qui a raté pratiquement toute la dernière saison en raison d'une blessure à un genou, a eu droit à un rappel au New Jersey. Donc vraiment, on essaie des choses chez les Devils et ça fait en sorte que Binghamton a piqué du nez. Donc t'as pas le choix. Là. Si tu veux te classer, il faut que tu battes Binghamton et peut-être même te donner un match facile parce que ça a tellement été difficile tout au long de la saison pour le Rocket. Des matchs faciles, il n'y en a pas eu beaucoup. C'est des victoires de 4-1 ou de 5-0, peu importe. Là. Le Rocket n'en a pas eu beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on manque de talent brut. Mais malgré tout ça, on est en fin de saison. On est encore tout près d'une place en série. Chapeau à Joël Bouchard et à ses adjoints de vraiment soutirer le meilleur de chacun des joueurs. Mais chapeau également aux jeunes Rockets parce qu'on se présente soir après soir et on bagarre, on se bataille et puis tu vois, on a pratiquement là on en a arraché vendredi à Utica à partir du début de la deuxième période, mais malgré tout ça, on est allé chercher un point. Et contre Springfield samedi, on perdait 2-0, on est revenu dans ce match-là. Et Xavier Ouellet a marqué en prolongation. Donc le Rocket n'abandonne jamais.
Raphaël, c'est ce temps de l'année aussi où les équipes juniors, leur saison tire à leur fin. Il y a des espoirs qui appartiennent aux Canadiens qu'on pourrait peut-être revoir avec le Rocket d'ici la fin de la saison. Le premier nom qui me vient en tête, c'est celui du défenseur Josh Brook qui s'aligne avec les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue de l'Ouest. Ce soir, Moose Jaw joue contre Saskatoon, tire de l'arrière 2-0 dans la série. Moose Jaw pourrait se faire éliminer aussi rapidement que demain soir, advenant 2 victoires des Blades. Donc, c'est pas impossible qu'on puisse voir un Josh Brook, par exemple, se joindre au Rocket. Il pourrait en avoir d'autres aussi, mais un bonhomme comme Brook, je pense que ce serait intéressant de le voir avec le Rocket en fin de saison si évidemment son équipe se fait éliminer rapidement.
Oui, ce serait le fun. Honnêtement, j'avais bien aimé son camp d'entraînement avec le Canadien. Puis on parle de Josh Brook comme d'un candidat potentiel avec le Canadien dès la saison prochaine. Bon, il y a eu toute une saison dans la WHL, 70 points avec les Warriors de Moose Jaw, a été le défenseur de l'année là, dans l'association Est, là-bas dans la WHL, défenseur droitier ultra offensif, et je pense qu'il aiderait là, notamment l'avantage numérique chez Rocket de Laval, enlèverait un petit peu de pression d'ici la fin de l'année à Xavier Ouellet, mais pour ça, il va falloir que Moose Jaw soit éliminé rapidement, comme tu viens de le mentionner. Un autre nom que j'ai en tête, c'est peut-être Samuel Hood, parce que si jamais les Saguenay de Chicoutimi sont éliminés rapidement, là, on vend chèrement notre peau jusqu'ici contre l'Océanique de Rimouski. Mais peut-être que Hood, là, qui a été repêché en 5e tour, pourrait rejoindre le Rocket d'ici la fin de l'année aussi.
Ouais, la différence dans le cas de Hood, c'est qu'il n'a que 18 ans, alors lui, peut-être qu'on sera plus prudent. Effectivement, il y a Jared Tiska également aussi avec les Thunderbirds de Seattle Ouais. Seattle affronte Vancouver, qui est une grosse équipe dans la Ligue de l'Ouest. Leur série est égale 1-1. Alors, dans le cas de Seattle, c'est sûr que minimum, on est en vie jusqu'à vendredi. Mais en tout cas, c'est le genre de choses qu'on peut vérifier en fin de saison. On se souvient que l'an dernier, Jake Evans s'était amené à temps pour les deux premiers matchs. Malheureusement, les deux derniers matchs, plutôt, il avait été blessé. On n'avait pas pu le voir à l'œuvre. Petit mot peut-être sur Evans, justement, en terminant. Là, il fait partie des meilleurs recrues de la Ligue américaine cette saison.
Ouais, il est rendu avec 43 points en 62 matchs, 9e chez les marqueurs recrues de la Ligue américaine. Et puis, il connaît une très bonne séquence avec 12 points à ses 11 derniers matchs. Et pour ce qui est de Jake Evans, c'est pas un gros gabarit, mais c'est un joueur vraiment intelligent. Et tout au long de la saison, il a notamment amélioré beaucoup son jeu défensif. On l'emploie de plus en plus en désavantage numérique. Et je pense que autant pour Evans que pour Joël Bouchard, on a compris que si jamais Evans atteint la Ligue nationale, ça va être sûrement sur un troisième trio. Donc, on veut le rendre plus complet. Il est intelligent. Maintenant, la priorité pour lui cet été, là, pour le jeune homme de 22 ans, ça va être vraiment de travailler son coup de patin. Parce que le reste, il a des beaux atouts. Mais a-t-il la vitesse, a-t-il le gabarit pour vraiment là, connaître une belle carrière dans la Ligue nationale? Ça, c'est mon point d'interrogation.
Ben, ce sera intéressant à surveiller. Je vous rappelle en terminant que RDS sera là demain en direct de la Place Belle. Notre avant-dernier match de la saison régulière sur les ondes de RDS. Les Devils de Binghamton qui sont de passage à la Place Belle. On aura également un des deux matchs contre Cleveland le week-end prochain. La fin de semaine du Rocket s'annonce pas commode, Raphaël, il faut le dire. Il y a ce match-là contre Binghamton demain. Oui, c'est une équipe vraiment accessible. Mais ouais. Vendredi et samedi, là, on parle de Rochester et Toronto. Ça va être plus compliqué.
Oui, ça va être plus compliqué. Et puis, les choses se sont remplacées pour les Marlies de Toronto depuis qu'on a fait l'acquisition de Michael Hutchinson. Hein, parce que, bon, en début de saison, on avait perdu le Garrett Sparks, Cardale Pickard. Donc, on n'avait pas vraiment de gardien de but numéro un. Mais là, c'est chose faite. Et les Marlies gagnent beaucoup de matchs depuis un mois et demi. Et pour ce qui est des Americans de Rochester, ben, ils ont été constants tout au long de la saison. Depuis le début de l'année, là, ils bataillent avec le Crunch de Syracuse pour le premier rang de la Division Nord.
Merci beaucoup, Raphaël. On se retrouve sans doute la semaine prochaine sur la glace. On va peut-être enregistrer ça un petit peu plus tard la semaine prochaine. Ce sera confirmé, mais toujours très intéressant de discuter avec toi. Bonne fin de journée, puis on se revoit demain à Laval. Salut, Raphaël.
Merci, Stéphane.
Voilà Raphaël Doucette, collaborateur au RDS.ca et analyste des matchs au 91.9, la radio du Rocket de Laval. Je vous rappelle donc notre rendez-vous demain soir à la Place Belle. Les Devils de Binghamton qui ont 10 défaites à leurs 10 derniers matchs qui sont de passage à Laval. C'est un gros cliché, mais Laval n'a pas le droit là, d'échapper ce match-là demain. Les séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se sont amorcées vendredi. 8 séries de premier tour qui ont fait beaucoup jaser. La semaine dernière, on en parlait notamment avec Yannick Jean, directeur général et entraîneur-chef des Saguenayens, le fameux format de cette année dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec où on a décidé d'y aller avec des séries intra-conférence pour les deux premières rondes. On se disait que c'était un peu injuste pour des formations, par exemple Chicoutimi qui a terminé 8e au classement général dans l'ancien système aurait eu l'avantage de l'Atlas, là, se retrouve à jouer contre Rimouski sans avoir l'avantage de l'Atlas. On ne reviendra pas là-dessus nécessairement, quoi qu'il en sera question dans une des entrevues là, qu'on va vous présenter tantôt avec Jocelyn Thibault. Mais je veux plutôt revenir sur les résultats des matchs comme tels. Que dire de ces deux premiers matchs? Il s'est passé plein de choses, surtout samedi soir. Je vous fais une histoire courte. Samedi après-midi, j'étais au match à Sherbrooke entre l'Armada et le Phoenix. Et j'avais une petite sortie familiale samedi soir. Alors, j'ai mis le téléphone cellulaire de côté là, pendant mon spectacle. Et quand je suis sorti de la salle de spectacle, il était à peu près 22 heures. Et là, je constate qu'on est allé en 4e prolongation à Rimouski. Un match qui s'était amorcé à 16 heures, qui s'est terminé à 21h30. Je constate que Québec a gagné un deuxième match de suite à Halifax et je constate surtout que les Cataractes de Shawinigan sont allés gagner un match à Rouyn-Noranda. Je me suis dit, c'est le monde à l'envers, mais c'est ça le hockey des séries éliminatoires. Alors, pour faire un résumé, peut-être la plus grosse surprise, c'est justement d'avoir vu Shawinigan 33 points au classement contre les Huskies de Rouyn-Noranda, 119 points au classement, et les Cataractes sont allés chercher une victoire dans cette série-là à Rouyn-Noranda, un endroit où les Huskies n'avaient pas perdu un match depuis le mois d'octobre. Donc, la série est égale 1-1. Ça se poursuit à Shawinigan ce soir. D'ailleurs, je serai ce soir au Centre Gervais Auto pour assister au match numéro 3. Je ne crois pas là, que les Cataractes sont capables de tenir tête aux Huskies pour une série 4-7, mais qu'ils aient gagné un match 4-3 en temps réglementaire samedi soir à Rouyn-Noranda. Ça a été tout un accomplissement. Le gardien Justin Blanchette des Cataractes qui a effectué 57 arrêts. Donc, cette série-là est égale 1-1. Au rayon des surprises également, de voir les Remparts de Québec aller chercher les deux premiers matchs à Halifax. Wow! Les Moussettes d'Halifax, faut-il le rappeler, sont l'équipe hôtesse du tournoi de la Coupe Memorial cette année. S'ils devaient subir une élimination rapide et s'entraîner pendant 40 jours pour le tournoi de la Coupe Memorial, ce serait, il va s'en dire, une catastrophe. Et vous savez, au cours des dernières années, ça n'a pas été facile pour les équipes hôtesses de la Coupe Memorial. Si on fait un petit résumé, là, si on se souvient, l'an dernier, les Pats de Regina ont été éliminés le 2 avril. Donc, ils ont été 45 jours à s'entraîner avant de commencer le tournoi. En 2017, les Spitfires de Windsor avaient été éliminés le 4 avril également en première ronde, 44 jours à s'entraîner. En 2016, les Rebels de Red Deer avaient perdu en demi-finale 20 jours à s'entraîner. Donc, la dernière équipe de la Coupe Memorial, là, hôtesse, qui a bien fait, c'est les Remparts en 2015, qui avaient été perdre en 7 matchs contre Rimouski le lundi soir, puis la Coupe Memorial commençait le vendredi. Donc, il y avait eu seulement 4 jours d'attente. Mais disons que c'est arrivé quelques fois au cours des dernières années. Et on ne peut pas faire autrement que de se rappeler de l'épisode des Cataractes de Shawinigan, dirigé par Éric Veilleux, le même entraîneur qui dirige les Moussettes d'Halifax cette année. 31 jours à s'entraîner en 2012 avant d'éventuellement devenir champion de la Coupe Memorial. Il va sans dire qu'Éric Veilleux, on n'a pas voulu trop aborder ce sujet-là aujourd'hui, mais je me suis déplacé du côté de Québec ce matin pour aller rencontrer, faire un petit brin de jasette avec Éric Veilleux avant la séance d'entraînement en vue du match numéro 3 qui sera présenté ce soir à Québec. Et ce qui est d'autant plus difficile pour les Moussettes qui tirent de l'arrière 0-2, on a perdu les services de Benoît-Olivier Groux qui est atteint d'une mononucléose. Et là, on doit jouer les matchs 3, 4 et si nécessaire 5 à Québec avant de revenir à Halifax pour les matchs 6 et 7 si on peut les provoquer. Donc oui, pour les Moussettes, la tâche s'annonce pas commode. Dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec, seulement 7 fois les équipes qui ont perdu les deux premiers matchs à domicile ont réussi à gagner la série, mais seulement 2 fois dans un cadre 2-3-2, le cadre qui nous occupe présentement, là, 2 matchs à un endroit, 3 matchs à l'autre. Alors, question de préparer un peu le match numéro 3 de ce soir. Avant de poursuivre avec les autres séries, on vous présente un extrait d'entrevue, un petit bout d'entrevue qu'on a fait avec l'entraîneur-chef des Moussettes d'Halifax ce matin au Centre Vidéotron, Éric Veilleux.
Éric, j'ai envie de te poser une question un peu facile, mais comment ça se fait que c'est 2-0 au Québec?
Il y a des choses qu'on contrôle, d'autres on contrôle moins. On a joué du hockey extraordinaire, non. Ce qui fait en sorte qu'on est 0-2 présentement. C'est aussi simple que ça. J'aimerais bien ça dire d'autres choses, de trouver des centaines de raisons. Là. Tu sais, je ne suis pas jamais été le genre de coach à blâmer un, deux ou trois personnes là, qui manquent des joueurs, qui en manquent pas. Faut trouver une façon de mieux jouer qu'est-ce qu'on a montré dans les deux premiers matchs.
Sans venir ici là, pour jouer deux, trois matchs, c'est pas une situation facile non plus avec la formule de la série. Là, vous êtes pas dans une bonne position.
Honnêtement, ça me dérange pas en tout. Hier, je me suis posé la question de l'avantage de la glace. Si on l'avait, on l'a perdu. Dans les séries éliminatoires, tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu sais, le momentum change tellement rapidement, là, que ce soit dans une période, dans un match ou dans une série, ça prend un match. Puis on en joue un ce soir, donc c'est à nous d'être prêts.
Plus de pression quand même sur vous autres. Sens-tu tes joueurs plus tendus, même si c'est un groupe qui est quand même assez expérimenté?
Oui. Le lendemain de la défaite, oui, un peu. Hier, c'était mieux. Puis je leur avais dit là, comment c'était pour... les sentiments et tout ça, ben, tout ça, ton expérience pour leur dire un petit peu, le lendemain, les jeunes se lèvent et ils se sentent mieux. Puis aujourd'hui, ben regarde, on va être prêt pour jouer un bon match.
Je pense que j'ai pas vu évidemment les matchs, j'ai vu des faits saillants. L'avantage numérique vous a fait mal. Je pense que la discipline, ça va être un élément important.
Oh, la discipline, non. Je ne penserai pas, là, non. Je ne suis vraiment pas prêt à dire ça de ce côté-là. Là. On a été aussi disciplinés qu'à Québec. D'avoir des meilleures unités spéciales, absolument. Tu sais, notre power play était correct. Ils sont à quoi? On est à 28, ils sont à 50. Donc, ils sont meilleurs que nous. En piqué, ben, c'est la même chose. Donc, toute la saison, on a eu des bonnes unités spéciales. Puis, dans les playoffs, c'est encore plus important. Donc, il va falloir se le payer aujourd'hui.
T'as-tu senti, quand vous avez appris la nouvelle pour Benoît-Olivier, que ça avait donné un coup dans le vestiaire?
Ouais, peut-être un petit peu, là, tu sais. On a eu le résultat à la dernière minute un peu. On avait des doutes, mais on savait pas exactement c'était quoi, là, tu sais. On l'a reçu, genre, la journée même du premier match. Sauf qu'il n'allait pas jouer quand même, donc... tu sais, c'est certain, oui, c'est un gros coup pour l'équipe. C'est un gros morceau. Sauf que on a assez de joueurs, on a assez de profondeur pour combler ça, là, pour le temps de son absence. Sauf que, regarde, c'est important qu'à ce soir, ça tourne de bord.
Gardien de but aussi, je pense, même si tu ne veux pas identifier une personne, il faut que lui soit meilleur aussi. J'imagine qu'il le sait.
Non, non, il est au courant. Regarde, deux matchs, tu sais, que je suis certain qu'il sait. Comme tu le dis, je suis pas le genre à blâmer un pilote et tout ça. Il sait ce qu'il a à faire. Il a été bon toute la saison. Il a rebondi tout le temps. Il nous a gagné des gros matchs. Et puis, c'est ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il a eu une bonne attitude toute la saison. Et puis ça peut que lui revenir.
Merci, Eric. Bonne chance.
Merci.
Alors voilà, entraîneur-chef Benoît-Olivier Groux. Éric Veilleux des Mooseheads de Halifax. Moussets n'ont pas le choix ce soir, ne peuvent pas se retrouver 0-3 là, avec deux autres matchs à Québec qui se pointent jeudi et samedi. On parlait de l'absence de Benoît-Olivier Groulx, 80 points en saison régulière en 65 matchs. Il a pris le 16e rang des compteurs de la Ligue junior majeure du Québec. C'est le deuxième meilleur pointeur là, des Moussets derrière Samuel Asselin. Asselin qui, incidemment, reviendra au jeu ce soir après avoir été suspendu dans le match numéro 2. Ça aussi, ça n'a pas aidé là, la cause des Moussets qui ont perdu en prolongation samedi. On a parlé du gardien Alexis Gravel. Effectivement, ça va prendre une meilleure performance de Gravel qui a été un taux d'efficacité de 863 au cours des deux premiers matchs. Il a accordé 7 buts là, en 5 périodes. D'ailleurs, Veilleux l'avait retiré du match après 2 périodes de samedi pour confier le filet à Cole McLaren. Donc, on doit rebondir là, du côté des Mooseheads pour éviter de se retrouver dans un scénario un peu catastrophique. Match numéro 4 qui aura lieu jeudi à Québec et, si nécessaire, match numéro 5 samedi à Québec. Dans les autres séries, je pense qu'on n'a pas le choix de parler évidemment de la série entre Rimouski et Chicoutimi. On en avait parlé la semaine dernière en raison là, du fameux format des séries. On a eu droit à deux pièces d'anthologie là, à Rimouski vendredi et samedi. D'abord, vendredi, l'Océanique prend les devants 3-0 après deux périodes. Les Sags remontent la pente et créent l'égalité avec 3 secondes à faire en troisième période pour forcer la prolongation. Théo Rochette a marqué 2 buts. Hendrix Lapierre a marqué l'autre. Donc, les joueurs de 16 ans qui se sont distingués pour les Saguenayens. Et finalement, c'est Rimouski qui l'a emporté grâce à un but de Jimmy Huntington pour prendre les devants 1-0. Les deux équipes reviennent le lendemain après-midi à 16h. Donc, le match de vendredi soir là, avec la prolongation, c'était quand même terminé quoi vers 22h30. Et là, c'est le contraire. C'est Chicoutimi qui prend les devants 2-1 avec 3-4 minutes à jouer en troisième période. Puis là, en fin de troisième, Cédric Paré, le vétéran, crée l'égalité 2-2 et envoie le match en prolongation. Et là, on était loin de se douter qu'on en jouerait 3 périodes et demie des prolongations. Ça s'est finalement réglé à mi-chemin là, de la 4e période de prolongation. Un but marqué par D'Artagnan Joly, à nouveau du côté de l'Océanique, qui prend donc les devants 2-0 dans cette série. Le gardien Alexis Schenk des Saguenayens fait face à 83 lancés dans ce match-là, effectué 80 arrêts. C'est une performance exceptionnelle. Le troisième match le plus long de l'histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec à peu près 3 minutes de devenir le deuxième plus long. On ne s'est pas attaqué au match là, entre Victoriaville et Hull de 1999 là, qui était allé en 5e période de prolongation, dont on a d'ailleurs célébré le 20e anniversaire il y a quelques jours. Mais c'est très décevant pour les Saguenay Chicoutimi là, d'avoir joué 2 matchs comme ça et de rentrer à la maison pour le match numéro 3 ce soir en arrière 0-2 dans cette série-là. Une série qu'on avait promis longue et spectaculaire, ben, à date, on n'a pas été déçu. Dans les autres duels, ben, on a eu 2 victoires faciles des Voltigeurs de Drummondville, 4-0 et 4-1 contre les Olympiques de Gatineau. Dans chacun de ces matchs-là, il y a eu un tour du chapeau. Vendredi soir, j'ai été à Drummondville, c'est Joe Veleno qui a marqué 3 buts. Samedi, c'est Maxime Comtois qui a marqué 3 buts. Ça se poursuit ce soir à Gatineau. Ça pourrait être la première fois de l'histoire des Olympiques. On parle d'une longue histoire, là, 46 ans, que pour 3 ans de suite, les Olympiques n'atteignent pas la ronde quart de finale. C'est du jamais vu, ça, dans l'histoire. Alors, ça risque de se produire cette année. Les Tigres de Victoriaville ont gagné leurs deux premiers matchs contre les Foreurs de Val-d'Or par des pointages identiques de 4 à 2 vendredi et dimanche. La série entre Baie-Comeau et Moncton est âprement disputée. Ça aussi, ça fait partie d'une situation qui est plus difficile. Le Drakkar de Baie-Comeau, là, qui a pris le quatrième rang au classement général, doit affronter une équipe comme Moncton dès le premier tour. Le Drakkar a gagné en prolongation vendredi soir 2 à 1 et samedi a perdu 5 à 2. Ce qu'on retient dans cette série-là, c'est l'absence de Jordan Spence, le défenseur de Moncton, et surtout de Jacob Pelletier, qui a été blessé dès la première période du match numéro 1. Et dans son cas, là, on ne pense pas qu'il sera disponible pour les trois matchs à Moncton ce soir, demain et vendredi. Peut-être pourrait-il effectuer un retour au jeu là, si la série se poursuit en 6 et 7 matchs la semaine prochaine à Baie-Comeau. C'est un élément extrêmement important. Une série dans les Maritimes également, Charlottetown qui a pris les devants 2 à 0 contre le Cap-Breton. Là aussi, on a eu droit à un match en deuxième prolongation vendredi soir remporté par Charlottetown. Samedi, ça a été à la régulière 6 à 4. Et la dernière série, c'est celle entre l'Armada de Blainville-Boisbriand et le Phoenix de Sherbrooke. L'Armada a surpris le Phoenix vendredi soir avec un gain de 5 à 1 et samedi après-midi, le Phoenix a réagi avec une victoire facile de 6-0. J'ai assisté à ce match à Sherbrooke. J'en ai profité pour faire un brin de jasette également avec le directeur général du Phoenix, Jocelyn Thibault. Le Phoenix, je me corrige tout de suite. En début d'entrevue, je dis à Jocelyn, vous avez complété votre 6e saison, mais c'est bien votre 7e saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, on parle un peu de l'avenir là, pour le Phoenix. On parle un peu de la situation de l'équipe cette année en marge de cette série face à l'Armada de Blainville-Boisbriand qui va se poursuivre à Boisbriand ce soir et demain.
Jocelyn, vous avez terminé votre 6e saison. On se l'était dit, le premier cycle n'avait peut-être pas été comme vous voulez. Où vous en êtes présentement? Vous visez plus pour l'an prochain?
Bien, on est à l'aube, justement, je pense, d'être une équipe où on veut être, finalement. On est une équipe jeune cette année. On est 5 ou 6e jeune de la Ligue. Puis c'est la direction qu'on voulait prendre. L'année passée, on avait beaucoup de 16 ans dans l'équipe. On avait des très bons 20 ans, 19 ans, des Grégoire, des Green, pour permettre à nos jeunes de vivre un peu de succès. Cette année, on est jeunes, nos jeunes, on a des jeunes vétérans, les Tardifs, les Poulains, et ainsi de suite, Jonca. Donc, on va leur donner l'expérience, puis on espère les 2-3 prochaines années être justement dans le corridor, à tout le moins dans le premier tiers de la Ligue.
L'an prochain, quand on regarde l'Association de l'Ouest, vous êtes probablement l'équipe la mieux positionnée. Là. Es-tu d'accord avec ça?
On est bien positionné. C'est sûr et certain qu'on est toujours en mode évaluation, puis on va sûrement avoir des corrections ou des changements à apporter dans notre saison, à tout le moins début de saison prochaine. Mais il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc, effectivement, on a quelques choix au repêchage aussi. On a des outils pour travailler. Donc, effectivement, je pense qu'on est bien positionné. Pas tout à fait rendu où ce qu'on souhaiterait être, mais bien en bonne position quand même.
La décision de faire de Samuel Poulin votre capitaine là, il y a quelques semaines, c'était important de faire ce genre de statement-là?
Oui, on voulait pas le faire si on n'avait pas pensé que c'était le temps de le faire ou que Sam n'était pas prêt à le faire. On a commencé la saison sans capitaine. Sam n'était pas prêt à le faire au début de saison. Personne d'autre n'était capable de le faire. On a un bon noyau leadership, on parle de Boyer, Robert, Tardif. Les jeunes Jonca, certains vétérans qui sont arrivés de d'autres équipes aussi qui font un bon travail. Mais on n'avait pas personne vraiment qui s'élevait au-dessus de la mêlée comme telle. Donc, c'était fun de travailler avec un groupe leader comme dans ce sens-là. Mais au fur et à mesure que la saison avançait, Sam s'établissait là, comme notre leader, comme notre meneur. Et puis, comme tu dis aussi, c'est un peu un statement qu'on veut faire pour les 2-3 prochaines saisons. On veut que Sam soit le chauffeur d'autobus, si on peut dire. On veut que ça soit notre leader. Et puis, il arrive là.
Ça vous croise-tu l'esprit des fois qu'il pourrait monter plus vite puis que vous ne l'auriez pas? C'est arrivé à Shawinigan avec des hommes comme Beauvilliers, comme Girard. Puis pour vous, ce serait une catastrophe. On sait qu'on fait du hockey junior pour permettre aux jeunes de monter, mais on veut pas les perdre trop vite non plus.
Ben écoute, c'est sûr que ce serait pas le fun pour nous autres, c'est sûr. Je serais menteur de dire qu'on s'attend à ce que Sam soit avec nous à 20 ans, ça c'est sûr. Mais à tout le moins, s'il quitte avant ses 19 ans, ben tant mieux pour lui. C'est sûr, pour nous, ça serait un gros coup. Regarde, on fait du hockey junior pour faire monter les gars, puis on vivra avec ça si ça arrive.
Vous avez pris une décision de faire un échange à votre gardien pour une deuxième année de suite. L'année passée, vous avez échangé Evan Fitzpatrick, cette année, Cregan. Pourquoi on a fait cette transaction-là?
Bien, cette année, quand on regardait les choses aller, on a une jeune équipe, puis au moment où on a fait la transaction, avait un gardien de but de 20 ans qui, à ce moment-là, faisait pas nécessairement la différence entre les victoires et les défaites pour notre équipe. Même que dans le temps des fêtes, notre Tommy Monette était rendu notre gardien numéro 1. Donc, à un moment donné, on se posait la question, est-ce qu'on finit la saison de cette façon-là? On manquait un petit peu d'expérience en défensive. Donc, on voulait stabiliser avec un défenseur de 20 ans un petit peu à ce niveau-là. Puis aussi, la blessure à Thomas Sigouin cette année nous a fait mal dans le sens que c'est un gardien de but qu'on voulait. On voulait qu'il prenne l'expérience pour le futur. Donc, je trouve ça important d'aller chercher un gardien de but de 18 ans pour justement pour nous amener vers le futur. Donc, l'an prochain, on va avoir un surplus de gardien de but qu'en entraînement, c'est sûr. Mais c'est dans cette petite optique-là qu'on a pris cette décision-là.
C'est un gars quand même qui n'a pas beaucoup de millage comme numéro 1. Puis là, ben dans les séries, je sais pas, on sait pas ce que ça va donner contre l'Armada, là, mais ça peut être peut-être votre talon d'Achille.
Ben écoute, c'est sûr, mais... tu sais, Dakota a eu des hauts, des bas depuis qu'il est arrivé avec nous. Un bon premier 7-8 matchs. Par la suite, il a eu une séquence un peu plus difficile. 5-6 derniers matchs de la saison, très bien fait. Donc, c'est une première expérience pour lui en série comme gardien de but numéro 1. Il a eu la chance d'avoir Welsh aller l'année passée. Mais regarde, on va donner de l'expérience. Puis, il nous a prouvé dans le stretch qu'il est capable de gagner des matchs.
On a beaucoup parlé dans les dernières semaines du format des séries, comment c'est débalancé cette année. Une équipe comme vous, vous pouvez profiter de ça en ce moment parce que sans dénigrer l'Armada, c'est quand même un adversaire moins sérieux que ce que vous auriez eu dans l'ancien format. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, en tant que dirigeant de la Ligue, de voir une situation comme trois équipes de 85 points qui vont tomber en première ronde, puis une équipe comme Val-d'Or ou Victo qui ont fini 12e, 13e, qui vont accéder au deuxième tour?
Oui. Bien, écoute, c'est sûr, c'est cyclique. C'est sûr, hein, quand tu regardes dans l'ancienne Ligue nationale avec les divisions Adam, c'est sûr, certains, quand tu as une division plus forte qu'un autre, on arrive avec des constats comme ça. Écoute, puis l'autre, en contrepartie aussi, ce qui arrivait, c'est qu'en première ronde, tu avais souvent des grandes distances à parcourir. Tu sais, à un moment donné, j'aime le nouveau format. Cette année, ça, pour la division Ouest, c'est un petit peu plus faible que la division Est. Les années subséquentes, ça peut être différent. Mais à un moment donné, si on veut réduire un petit peu les distances, à un moment donné, c'est sûr que d'un point de vue hockey, il risque d'avoir des impondérables, des inconvénients. Donc, je ne sais pas si on est capable de trouver une formule parfaite, mais cette année, effectivement, l'avantage doit un petit peu.
6 ans de hockey junior maintenant, est-ce que tu es content de la réponse que vous avez, les spectateurs que vous avez, tout? Tu sais, on le sait que c'est un marché qui a été fragile à travers les années ici.
Oui, bien oui. En fait, Sherbrooke a toujours eu, traditionnellement, 2004, 2500 personnes sont venues au hockey junior dans le passé. C'est un peu toujours la même chose qui se passe. C'est sûr, certain qu'on aimerait être au-dessus de 3 500 spectateurs un peu plus souvent. C'est pas facile, on a une belle ville, beaucoup de choses à faire ici. Donc, on essaie justement d'aller chercher l'extra à ce niveau-là. Mais écoute, on est dans nos objectifs, dans le sens que, tu sais, écoute, on a un moyen d'à peu près presque 2005 encore cette année au niveau des partisans. Puis, une tendance, c'est évident que la fin de saison est toujours beaucoup meilleure que le début de saison. On sent aussi à travers la Ligue, donc c'est assez correct, et puis on essaie justement d'aller chercher la petite section si on était capable.
Merci, Jocelyn.
Merci, Stéphane.
Alors voilà pour Jocelyn Thibault du Phoenix de Sherbrooke. Je tiens à m'excuser à nouveau. On parlait bien d'une, je suppose que j'avais la tête, là, on parlait bien d'une 7e saison qui vient de se terminer là, dans l'histoire du Phoenix de Sherbrooke, qui a réussi l'an passé pour la première fois à gagner une ronde éliminatoire, avait vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda en première ronde avant d'être éliminé en deuxième ronde. Là, la série contre l'Armada de Blainville-Boisbriand est à égalité 1-1, se poursuit ce soir et demain à Boisbriand. Survol rapide en Ontario, pas vraiment de surprise. L'équipe championne de la saison régulière, les 67 d'Ottawa, mène 2-0 contre les Bulldogs de Hamilton. 2 victoires faciles pour l'équipe d'André Tourigny, 9-3 et 5-2 dans les 2 premiers matchs. Même chose pour les Knights de London, premiers dans l'Ouest, qui ont gagné 4-3 et 5-0 contre les Spitfires de Windsor, qui s'en vont, soit dit en passant, les Spitfires, peut-être pour une 8e année consécutive à ne pas gagner une ronde de série. Faut-il rappeler toutefois qu'ils ont gagné la Coupe Memorial comme équipe hôtesse en 2017. Dans la Ligue de l'Ouest, pas vraiment de surprise non plus, alors que les Giants de Vancouver, l'équipe numéro 1 en saison régulière, est à égalité 1-1. Peut-être que oui, peut-être petite surprise, mais c'est pas dramatique non plus face aux Thunderbirds de Seattle. On va suivre de près là, ce qu'on discutait avec Raphaël Doucet tantôt à propos des Warriors de Moose Jaw qui tirent derrière 2-0 dans leur série contre les Blades de Saskatoon. Ça, c'en est une aussi. L'équipe des Blades de Saskatoon qui ne gagne pas souvent en séries éliminatoires n'avait pas gagné une seule ronde de série là, depuis une dizaine d'années aussi. Alors, les Blades qui mènent 2-0 contre les Warriors de Moose Jaw dans la Ligue de l'Ouest. Je vous parlais tantôt de la... Le Frozen Four qui s'en vient, dans le fond, à Buffalo. Le Frozen Four, là, pour ceux qui sont moins familiers, c'est la finale du hockey universitaire américain. Ça a lieu cette année du 11 au 13 avril à Buffalo. C'est un tournoi qui regroupe 4 équipes. Au moment où on se parle, il reste 16 équipes en liste au hockey universitaire. En fin de semaine, ce sera les 4 finales régionales, les 4 tournois régionaux. Et on joue ça sur une formule 4 équipes, 2 matchs. Les 2 gagnants s'affrontent en finale. L'équipe qui gagne chacune des régions se qualifie pour le Frozen Four. La raison pour laquelle je vous parle de ça surtout, c'est qu'on a évidemment 2 espoirs du Canadien qu'on suit de près qui vont participer à ce tournoi. 2 des meilleurs espoirs du Canadien. D'abord du côté de Ryan Poehling, qui a été blessé, soit dit en passant, là, dans la demi-finale régionale, est un cas douteux là, pour en fin de semaine. Dans le cas de son équipe, l'Université Saint-Cloud, on va affronter American International College. Ça se passe à West Fargo vendredi et samedi. Si Saint-Cloud gagne son match vendredi, jouera samedi contre le gagnant de Ohio State et Denver. Et si Saint-Cloud gagne ce match-là aussi, va accéder au Frozen Four. L'an passé, Saint-Cloud s'était fait éliminer dans cette finale régionale. Si jamais Ryan Poehling et Saint-Cloud se faisaient éliminer en fin de semaine, mais là, il serait disponible s'il veut quitter l'université avec un an à faire pour signer un premier contrat et se rapporter directement aux Canadiens ou encore aux Rockets de Laval. Donc, c'est un dossier à surveiller en fin de semaine. Même chose pour le gardien Caden Primo avec les Huskies de Northeastern qui, lui, dans une autre finale régionale, va jouer contre l'Université Cornell. Lui aussi, même chose, s'il gagne ses 2 matchs en fin de semaine, ben, pourra accéder au Frozen Four avec son université. S'il gagne contre Cornell, ils vont jouer contre le gagnant de Providence et Minnesota State. Ce qu'il faut comprendre dans ce processus-là, c'est que les équipes favorites dans chacune des divisions, Saint-Cloud dans une division, Minnesota State, Massachusetts et Minnesota Duluth. En principe, ce sont les 4 équipes favorites. Donc, si on suit la logique, Ryan Poehling pourrait se qualifier pour le Frozen Four. Dans le cas de Northeastern, ça va être plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Caden Primo, qui a joué du gros hockey encore cette année avec l'Université Northeastern. Donc, sûr et certain, la semaine prochaine, on vous reparle de ça parce que ça pourrait avoir une influence, surtout dans le cas de Poehling. Dans le cas de Primo, je doute qu'après 2 ans, ils veulent quitter l'université tout de suite. Je ne sais pas les plans du Canadien à ce niveau-là non plus. Il a 19 ans cette année. Est-ce qu'il pourrait s'amener comme gardien dès l'an prochain, par exemple, avec le Rocket de Laval? À suivre comme dossier dans le cas de Primo, mais assurément dans le cas de Ryan Poehling. Un petit mot également sur, avant de terminer, sur les séries éliminatoires dans la Ligue Midget 3A. On a eu toute une frousse. Ben, je dis on a eu toute une frousse. Il faut faire attention comment on s'exprime ça. Là, disons que les partisans des Chevaliers de Lévis ont eu toute une frousse en fin de semaine parce que Lévis, dont on a parlé toute l'année, qui ont terminé la saison avec 41 victoires, une défaite, qui ont balayé les 2 premières rondes des séries éliminatoires, qui ont gagné le premier match contre le Lac-Saint-Louis, qui avaient gagné également 4 matchs au Challenge de la Ligue Midget 3, se sont présentés pour le match numéro 2 la semaine dernière avec une fiche de 52-1 contre Lac-Saint-Louis. Et là, soudainement, ont perdu 2 matchs de suite. On pensait pas ça possible. Alors, dimanche après-midi, les Chevaliers de Lévis faisaient face à l'élimination contre le Lac-Saint-Louis dans une demi-finale 3-5. Lévis a gagné ce match-là 4-2 pour forcer la présentation d'un match numéro 5 ce soir à l'aréna de Charny. Donc, le gagnant du match de ce soir entre Lac-Saint-Louis et Lévis va accéder à la grande finale contre les cantonniers de Magog, qui, eux, deuxième au classement général, ont éliminé l'intrépide de Gatineau. Magog, qui est champion en titre, dirigé par Félix Potvin. Alors, évidemment, tous les gens dans la Ligue Midget 3 attendent une finale entre Magog et Lévis depuis le début de la saison. Magog est qualifié. Ce soir, on va connaître le deuxième finaliste du côté de la Ligue Midget 3. Donc, c'est un match qu'on surveille de près également là, pour les amateurs de hockey de la région de Québec. Oui, les Remparts sont à domicile contre Halifax, mais au Petit Aréna de Charny, il y a aussi un gros match Midget, les Lions du Lac-Saint-Louis contre les Chevaliers. Voilà, ça fait pas mal le tour de notre notre édition sur la glace de cette semaine. Je tiens à remercier Raphaël Doucette, collaborateur régulier de notre balado-diffusion qui nous a parlé du Rocket. Je vous rappelle notre rendez-vous demain à RDS à Laval, Binghamton contre le Rocket. Merci à Jocelyn Thibault, directeur général du Phoenix de Sherbrooke. Merci également à Éric Veilleux, entraîneur-chef des Moussets d'Halifax. Luc Dansereau était là à la coordination, Guillaume Séguin à la technique. Moi, je vous retrouve sans faute la semaine prochaine.